Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui.
À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du 27 janvier 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Retour triomphal hier à Banjul du nouveau président gambien, Adama Barrow.
Et au Mali, les forces françaises de l'opération Barkhane ont arrêté 3 personnes en rapport avec l'attentat suicide meurtrier du 18 janvier à Gao.
Pas de rencontre la semaine prochaine à Washington entre le président Donald Trump et son homologue mexicain Enrique Peña Nieto. Elle a été annulée.
Rencontre en revanche aujourd'hui à la Maison-Blanche entre M. Trump et la première ministre britannique Theresa May.
Et ne manquez pas notre journal de la Cannes ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le nouveau président gambien Adama Barrow est arrivé hier à Banjul, où il a été acclamé par une foule en liesse. Il a donc quitté le Sénégal voisin, où il vivait depuis le 15 janvier. Le point avec Abdourahman Dia.
Adama Barrow a été transporté par un avion militaire sénégalais portant l'emblème de la CEDEAO. Il était accompagné par ses 2 épouses et plusieurs de ses enfants. À l'aéroport de Banjul, une foule enthousiaste lui a réservé un accueil triomphal avec des groupes de danseurs et de joueurs de tambour. Des militaires sénégalais et nigérians lourdement armés et un détachement de l'armée gambienne étaient postés aux endroits stratégiques de la capitale. Accueilli au Sénégal depuis le 15 janvier, M. Barrow n'était pas apparu en public depuis sa prestation de serment à Dakar. Sa victoire à l'élection présidentielle a été suivie par un revirement spectaculaire de Yahya Jammeh. La CEDEAO a dû lancer une opération militaire doublée d'une offensive diplomatique pour forcer l'ancien homme fort de Banjul à quitter le pays pour un exil doré en Guinée équatoriale. Hier, son ancien ministre de l'Intérieur a été arrêté en Suisse après une plainte pour torture d'une ONG.
Au Mali, les forces françaises de l'opération Barkhane ont arrêté 3 personnes en rapport avec l'attentat suicide qui a fait au moins 77 morts le 18 janvier dans un camp militaire de Gao, dans le nord du pays, a annoncé hier, selon l'agence Reuters, le ministre malien de la Sécurité, Salif Traoré. Al-Qaïda au Maghreb islamique a déclaré que 5 de ses combattants avaient lancé cette attaque suicide qui, outre les morts, a fait plus de 100 blessés. Le ministre malien n'a pas donné de précision sur les arrestations.
Au Nigeria, le chef de la police de l'État de Borno a annoncé que 3 hommes ont été tués et 7 femmes enlevées par des combattants du groupe islamiste Boko Haram dans un village du nord-est du pays.
La justice kényane a donné un ultimatum aux médecins et infirmiers grévistes. Ils ont 5 jours pour mettre un terme à leur mouvement qui, depuis plus de 50 jours, paralyse les hôpitaux publics du pays.
Au Soudan, l'opposant et ex-premier ministre Sadek al-Mahdi, dont le gouvernement avait été renversé par l'actuel président Omar el-Béchir, est rentré jeudi à Khartoum après près de 30 mois d'exil. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le torchon brûle entre le président mexicain et son homologue américain Donald Trump. Enrique Peña Nieto a annulé sa visite à Washington en pleine discorde sur le mur à la frontière et le traité ALENA, tandis que M. Trump assure que cette décision a été prise d'un commun accord. Bagassi Koura.
J'ai informé la Maison-Blanche que je n'assisterai pas à la réunion qui était prévue mardi prochain, a écrit Peña Nieto sur Twitter. Il répondait au président Trump qui avait écrit plus tôt que si le Mexique n'est pas prêt à payer le mur, ce serait mieux d'annuler la rencontre. Les 2 pays doivent aussi discuter du traité de libre-échange signé entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Mais Donald Trump a de nouveau dénoncé l'ALENA, qualifié de désastre total pour son pays. Concernant l'immigration, M. Trump prévoit de réduire les financements fédéraux pour les quelques 200 villes sanctuaires américaines qui accueillent des immigrés clandestins. Les Syriens qui ont fui la guerre dans leur pays et dont seulement 10 000 ont été acceptés aux États-Unis en 2016 seraient eux définitivement interdits d'entrer. L'administration Trump entend accepter 50 000 réfugiés cette année, toutes nationalités confondues, contre plus de 100 000 prévus par l'équipe Obama.
Une précision, le président Trump pourrait aussi décider dans les jours à venir de bloquer pendant un mois l'arrivée en Amérique de ressortissants de 7 pays musulmans, Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. C'est ce qui ressort, selon le Washington Post, d'un projet de décret publié mercredi par le grand quotidien de la capitale américaine.
Pour revenir sur la controverse avec le Mexique, Donald Trump envisage, entre autres possibilités, la mise en place d'une taxe sur les produits mexicains pour financer la construction du mur à la frontière. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, avait parlé hier d'une éventuelle taxe de 20%, mais quelques heures plus tard, il a tenu à préciser qu'il s'agissait seulement d'une proposition parmi d'autres destinée à illustrer les multiples modes possibles de financement.
La première ministre britannique Theresa May, en visite aux États-Unis, rencontre ce vendredi le nouveau président américain. La chef du gouvernement conservateur, qui sera la première dirigeante à rencontrer Donald Trump depuis son investiture, s'est exprimée jeudi devant les parlementaires républicains réunis à Philadelphie. Theresa May espère une première visite fructueuse, Jean-Roger Bion.
La première ministre britannique Theresa May a présenté au premier jour de sa visite aux États-Unis le président américain Donald Trump comme un ami et un allié, mais elle a averti de ne pas tourner le dos aux institutions mondiales et aux valeurs politiques établies depuis longtemps. Lors de son discours devant les républicains à Philadelphie, Theresa May a souligné l'importance des institutions internationales, dont les Nations Unies et l'OTAN, éreintées à maintes reprises par le président américain Donald Trump. Tout au long de la demi-heure de son discours, la chef du gouvernement britannique a exprimé sa sympathie pour la vision du monde de Trump, mais a rappelé aux républicains et par conséquent aux nouveaux locataires de la Maison-Blanche les obligations internationales des États-Unis. Theresa May a aussi mis en garde les États-Unis contre le dirigeant russe Vladimir Poutine, avec qui le président américain Donald Trump a souhaité se rapprocher. À l'issue de leur rencontre de ce jour, le chef de l'exécutif américain et Theresa May participeront à la Maison-Blanche à une conférence de presse, selon le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer. Il s'agira de la première conférence de presse du président républicain depuis sa prestation de serment il y a une semaine.
Israël a poursuivi hier son offensive de colonisation sous l'effet de la présidence Trump en avalisant la construction de 153 logements à Jérusalem-Est occupés. L'État hébreu promet des milliers d'autres dans les prochains mois. Jacques Aristide.
Il s'agit de la troisième annonce du genre en six jours. Le maire adjoint de Jérusalem, Meir Turyeman, a dit ouvertement qu'avec Donald Trump à la Maison-Blanche, la donne avait changé en ce qui concerne la construction par Israël de logements en territoire palestinien occupé. Comme beaucoup d'autres, le programme de JLO était gelé depuis deux ans sous la pression de l'administration Obama. Environ 11 000 autres logements attendent une approbation rien qu'à Jérusalem, selon le maire adjoint. 8 années de relations tendues entre Barack Obama et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'étaient cristallisées le 23 décembre dernier dans une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant la colonisation israélienne. L'exceptionnelle abstention américaine avait rendu possible l'adoption du texte. L'ONU, l'Union européenne, la Ligue arabe, la France, l'Égypte et la Jordanie, les deux seuls pays arabes à avoir fait la paix avec Israël, ont dénoncé les récentes annonces israéliennes. Pas de réaction pour l'heure du côté de l'administration Trump.
Le Yémen, déchiré par un conflit, s'enfonce dans une grave crise humanitaire et fait face à un risque de famine dans les mois à venir si rien n'est fait. Telle est la mise en garde lancée hier par le patron des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien.
Et tout de suite, le journal de la CAN avec Nicolas Pinault sur VOA Afrique.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. J-1 au Gabon avant les premiers quarts de finale de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. À Libreville, les étalons du Burkina Faso affronteront les Aigles de Carthage samedi. Tunisiens et Burkinabés, deux équipes qui font figure d'outsiders, comme nous l'explique l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
Burkina-Tunisie, le choc entre deux équipes qui ont entamé le tournoi lentement avant de finir la phase de groupe sur une forte impression. Les étalons burkinabés ont enregistré deux matchs nuls contre le Gabon et le Cameroun. Ils se sont ensuite imposés 2-0 face au Licaon Bissau guinéen. Bien que privés très tôt de leurs stars Jonathan Pitropa et Jonathan Zongo, les Burkinabés semblent s'être ajustés pour la suite de la compétition. Deuxième d'un groupe B où ils avaient trébuché en première journée, les Tunisiens se sont rachetés en s'imposant 2-1 face à l'Algérie, mais surtout 4-2 contre les Zimbabwéens. 4 buts inscrits en première mi-temps par Sliti et Msakni notamment. Un avertissement aux futurs adversaires quant aux ambitions des Aigles de Carthage dans cette 31e Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 après leur unique titre continental remporté en 2004. Timothée Donangmaï, OIM VOA Afrique.
Le Burkina Faso court après sa glorieuse finale perdue de 2013 et espère bien avancer dans le dernier carré de la compétition. J'ai joint à Libreville Sita Sangaré, le président de la Fédération Burkinabé de football.
Nous attendons seulement que les joueurs fassent preuve d'engagement et de détermination sur le terrain. Après, maintenant, les résultats, nous verrons. Parce que vous savez, le football, c'est comme ça. Les résultats qu'on a, on a soit une défaite, soit une victoire. Voilà, bon, souvent des nuls, mais à ce stade-là, il n'y a pas de nuls qui tiennent. Bon, maintenant, à défaut, si nous sommes battus, il faut au moins que les joueurs aient montré suffisamment d'envie et de volonté sur le terrain.
Sita Sangaré, le président de la Fédération Burkinabé de football. Autre match samedi, le Sénégal affrontera le Cameroun. Un duel de lions où les Sénégalais sont favoris au vu de leurs prestations lors du premier tour. On retrouve Amdine Sy à Franceville pour VOA Afrique.
D'ailleurs, les poulains d'Aliou Cissé s'entraînent désormais à huis clos. Il faut dire que ce choc entre Lyon de la Teranga et Lyon, les indomptables du Cameroun, s'annonce difficile car le Cameroun est une équipe difficile à manœuvrer selon le milieu de terrain sénégalais Henri Sévé.
Nous, on va faire notre travail jusqu'au bout et on a vraiment pas envie de se dire on est favoris, sont favoris. Nous, on connaît nos qualités, on va vraiment tout travailler pour préparer le match bien comme il faut. Et c'est une équipe difficile, c'est une équipe qui est toujours au rendez-vous de la Coupe d'Afrique et même ils ont participé à pas mal de compétitions internationales. Donc ça va être un gros match, ça va être un match très difficile, on le sait, donc on se prépare pour ça.
Les Camerounais qui étaient basés à Libreville ont rallié Franceville depuis mardi. Ils ont pris leur quartier à Moanda, Sénégal, Cameroun, un duel de Lyon. Une rencontre palpitante en perspective. Amédine Sy, Franceville, VOA Afrique.
Et dimanche, les deux derniers quarts de finale, la République démocratique du Congo face au Ghana et l'Égypte qui affrontera le Maroc. Les Pharaons qui frappent fort pour leur retour à la CAN. Aucun but encaissé lors de la phase de poule pour l'équipe entraînée par Hector Cuper. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
À ceux qui se posaient encore des questions quant aux ambitions de l'Égypte dans cette CAN, la plus claire des réponses est donnée. En prenant la première place du difficile groupe D devant une bonne équipe du Ghana, vaincue à la régulière, les Pharaons ont démontré leur éternel talent de tacticien et de compétiteur incorrigible. Il a suffi de boucher les couloirs, si important au développement du jeu offensif d'Atsu et ses frères, d'installer dans les buts du vétéran El Hadary un bloc hermétique, prompt à passer des phases défensives aux phases offensives, pour dérégler le jeu des Black Stars, des spécialistes du jeu court et du contre-pied. Et quand on sait qu'à la manœuvre de ce schéma tactique se trouve un inconditionnel du jeu en contre, l'ancien entraîneur argentin du FC Valence, Hector Cuper, qui amena son club à disputer deux finales consécutives de Ligue des Champions au début des années 2000, on ne peut être surpris. Les Pharaons ont progressivement assimilé la méthode Cuper et appliquent avec bonheur un quadrillage systématique du milieu de terrain au service de véritables flèches humaines embusquées en attaque et censées à la moindre occasion transformer les possibilités en mouvement ou sur coup de pied arrêté. Cuper a annoncé que l'Égypte revenait à la CAN pour gagner. Ce n'est pas une simple fanfaronnade. Si l'on considère le nombre de fois où ce marathonien de la CAN a atteint au moins le carré d'as en phase finale. Alors, le Sénégal, la RDC ou la Tunisie qui ont brillé au premier tour ne peuvent empêcher l'Égypte d'être l'attraction du deuxième tableau de la compétition. À demain.
Et c'est la fin de ce journal de la CAN. Nouveau rendez-vous ce soir sur les ondes de VOA Afrique. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons par la Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Le fonds Bekou a lancé à Bangui un concours de jeunes entrepreneurs. Le fonds Bekou, institué par des pays de l'Union européenne afin de financer le redressement de la RCA, a déjà aidé à la reconstruction de certaines infrastructures en Centrafrique. La quinzaine de lauréats recevront un financement de 75 000 francs CFA. Auparavant, ils bénéficieront d'une formation sur l'entrepreneuriat et la rédaction de projets. Le Tchad durcit sa politique contre la fraude des produits pétroliers. Les autorités tchadiennes ont annoncé la fermeture des dépôts et stations-service reconnus coupables d'importation frauduleuse de produits pétroliers. Depuis septembre 2016, le gouvernement avait interdit l'importation des produits pétroliers des pays voisins. Au Cameroun, un rapport d'expertise sur les quatre commandés par la justice camerounaise. Ce rapport conclut à une responsabilité totale et entière de Camrail dans la catastrophe ferroviaire des ECA. C'est ce qu'affirme le magazine Jeune Afrique qui a pu consulter les documents.
Escalade de la querelle entre les États-Unis et le Mexique à l'origine de cette polémique, le mur que Donald Trump veut ou va construire à la frontière entre les deux pays et dont le président américain veut faire payer le coût par son homologue mexicain. Enrique Peña Nieto a répété qu'il n'en sera jamais question. Et il a dit avoir annulé une rencontre qui était prévue la semaine prochaine à Washington avec M. Trump. Le chef de l'exécutif américain assure quant à lui que la décision a été prise d'un commun accord. Pour analyse, Eric Maniraktiza a joint un professeur du Centre des études africaines au département des sciences politiques à l'Université de Floride, Leonardo Villalon.
Comme vous le savez, le président Trump est arrivé au pouvoir il y a à peine une semaine. Il a commencé tout de suite à essayer de mettre en œuvre certaines de ses promesses électorales, y compris certaines promesses qu'on pensait impossibles à l'époque, dont la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Le président mexicain, évidemment, ne peut pas accepter cela, surtout l'insistance du président Trump que le Mexique va payer pour ce mur-là.
Justement, le président Trump a tweeté que si le Mexique ne va pas payer, pas question de rencontre avec le président mexicain. Dans la foulée, le président mexicain a annulé sa visite à Washington. Où est-ce que ça va mener les deux pays?
Écoutez, je crois que le président mexicain n'avait pas le choix compte tenu de sa réalité politique au Mexique. Nous voyons qu'il avait quand même déjà essayé plusieurs fois de trouver une façon d'avoir un dialogue avec Trump. En tant que candidat, ils se sont réunis. À la suite de cette réunion qui a été un désastre politique pour le président mexicain, ils avaient deux versions différentes de ce qui a eu lieu pendant la conversation. Là, cette fois-ci, avec le président, en insistant qu'il a signé l'ordre exécutif et insiste que le Mexique va payer, le président mexicain n'avait pas le choix de dire mais non, le Mexique ne peut pas se permettre d'être traité de cette manière. Et c'est normal quand même.
Et qui perd, qui gagne?
C'est pas clair qui va perdre et gagner. En fait, évidemment, je crois que dans le monde où nous habitons, tous les pays bénéficient d'une bonne relation avec leurs voisins. C'est clair que les États-Unis et le Mexique ont bénéficié du NAFTA, de l'accord de commerce entre les deux pays. Bien sûr, il y a eu des coûts de deux côtés. Mais si les États-Unis pensent qu'ils peuvent dicter les conditions d'une relation avec le Mexique, que ce soit tout à fait au profit américain et au coût du Mexique, je crois qu'on va avoir des surprises assez désagréables aux États-Unis, puisqu'on dépend aussi beaucoup de la main-d'œuvre mexicaine, du commerce avec le Mexique pour beaucoup d'emplois aux États-Unis.
Si Trump mettait en exécution ces menaces, est-ce que c'est dans l'intérêt des États-Unis?
Je ne crois pas du tout. Personnellement, évidemment, je crois que Trump compte sur le fait qu'il va pouvoir forcer les Mexicains à accepter ses conditions et ses termes. Mais je ne suis pas du tout sûr que ce sera le cas. Et s'il essaie de forcer la situation, le Mexique résiste, je crois que ça ne sera pas aux intérêts des États-Unis. Évidemment, c'est très important pour les États-Unis d'avoir un Mexique prospère et un Mexique stable. Les États-Unis dépendent beaucoup de notre relation avec le Mexique, c'est-à-dire une frontière très importante pour les États-Unis. Donc, je crois qu'on a tout l'intérêt pour avoir un dialogue constructif pour les deux pays et pas ce type de manque de diplomatie et de menaces de la part d'un président nouveau arrivé au pouvoir.
Le professeur Leonardo Villalon de l'Université de Floride. La nouvelle administration Trump prévoit également, selon la presse, de ne plus accepter un seul réfugié pendant 4 mois. L'objectif divisé par 2, le nombre de réfugiés accueillis aux États-Unis en 2017. Pour un éclairage, Claire Morin-Gibourg a joint Bakary Tandia, défenseur des droits des immigrés africains pour l'ONG African Services Committee.
Les déclarations faites par Trump sont préoccupantes pour tout le monde, les immigrants qui sont ici aux États-Unis, y compris les Africains. Comme vous le savez, il y a un bon pourcentage d'Africains qui sont sans papier. Donc le ton que Trump a adopté par rapport aux immigrants, un ton très agressif, c'est quelque chose qui nous préoccupe et nous faisons partie de cette grande masse qui est prête en tout cas à réagir et à défendre nos droits.
Et qu'en est-il des Dreamers, ces immigrants sans papier venus très jeunes aux États-Unis ?
Ce que nous appelons communément les Dreamers, si la situation s'était passée normalement, ils auraient eu une situation légale il y a très longtemps. Parce que nous avons réellement combattu pour eux et ils sont venus ici tout jeunes. Le fait qu'ils se soient retrouvés dans une situation illégale n'est pas de leur faute. Donc on ne peut pas les responsabiliser ou les punir pour des fautes qu'ils n'ont pas commises. C'était la responsabilité de leurs parents. Normalement, si la loi concernant les Dreamers était passée, leur légalisation aurait eu lieu. On n'allait pas nous retrouver dans cette situation hybride. C'est parce que le président Obama a eu à faire face à des obstacles. Il n'a pas pu faire passer la réforme de l'immigration et il a estimé que, au moins, pour les Dreamers, il est très, très important de régler leurs problèmes. D'autant plus qu'ils sont de facto des Américains. Ils ont grandi ici. Et certains ne parlent même pas la langue de leur pays d'origine. Ils ont fait leur formation ici. Et c'est une situation qui est doublement avantageuse. Bon, ça les arrange, ils travaillent et en plus, ils contribuent à l'économie américaine. Donc, le fait, en tout cas, de régler leurs problèmes, c'est juste une question de justice et une question de droit.
Bakary Tandia, défenseur des droits des immigrés africains pour l'ONG African Services Committee.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Dans le dernier rapport annuel de Transparency International, publié cette semaine, il est dit que le Cameroun est le 30e pays le plus corrompu du monde. Un classement qui ne surprend guère les Camerounais, nous dit Emmanuel Jules Ntap, notre correspondant sur place.
Dans les administrations publiques du Cameroun, les pots de vin ont leur lexique. Mouiller la barbe, faire un geste, laisser une bière ou encore donner la bonne année. Les victimes se comptent parmi les usagers du service public. Mathieu est un retraité. Il garde une dure expérience de la réalité des pots de vin dans l'aboutissement de son dossier.
La manière dont la personne qui doit vous rendre service manifeste signifie directement qu'il a besoin de quelque chose. Et là, vous allez donner, que ce soit 1000 francs, 500, 5000, ça va même des fois jusqu'à 10 000 quand le dossier est consistant.
Certains départements ministériels au Cameroun passent au sein de l'opinion publique comme des fiefs de pots de vin. Pourtant, là-bas, des cellules de lutte contre la corruption ont été installées. Cependant, les pots de vin perdurent. Jean-Marc Bikoko est le président de la centrale de services publics, un syndicat des fonctionnaires et agents de l'État du Cameroun. Il explique les raisons d'une telle résistance.
Les cellules de lutte contre la corruption ne sauraient fonctionner parce que le Cameroun est le seul pays au monde où on aura baissé les salaires des agents de plus de 70%. Quand on sait que les prix des denrées sont passés du simple au quintuple, attendre que ces gens-là, mus par l'instinct grégaire de survie, ne se battent pas pour joindre les deux bouts, ce serait faire vraiment de la politique de l'autruche.
Dans les rues, les chauffeurs de taxi ont eu maille à partir avec les fonctionnaires de la police. Arnaques, extorsions lors de contrôles routiers ont fini par exaspérer les syndicats. Après des séries de grèves, un cadre de concertation syndicat, délégation générale à la sécurité nationale, a vu le jour. Jean Collins Ndefosoken est responsable d'un syndicat de transport terrestre.
Pour pouvoir dénoncer la corruption, il y a aujourd'hui un numéro vert, le 1500 à la police. De sorte que partout où tu te trouves, si tu te sens, n'est-ce pas, abusé, tu appelles le 1500, tu dénonces. Et qui plus est, si tu es syndiqué, alors là, tu as désormais une porte vraiment ouverte.
Ailleurs, comme dans le secteur forestier, les pots de vin sont de plus en plus présents, malgré la montée au créneau des organisations de la société civile. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
L'opposant et ex-premier ministre soudanais Sadek al-Mahdi, dont le gouvernement avait été renversé par l'actuel président Omar al-Béchir, est rentré hier à Khartoum après près de 30 mois d'exil. Pour parler de ce retour, John Linden a joint à Paris Mohamed Naki, directeur du journal Soudan Tribune.
Sadek est sorti du Soudan volontairement et retourne volontairement. Dans ce sens qu'il sortait, il espérait faire quelque chose, mais il retourne sans cela. C'est-à-dire qu'il rêvait de revenir avec les rebelles. Mais malheureusement, il n'a pas pu faire ça. Les négociations menées par la médiation africaine n'ont pas réussi. Et du coup, voilà, comme il est sorti, comme il rentre au pays, dans l'espoir de continuer à militer comme il l'avait fait avant. Je crois pas qu'il va se réconcilier ou faire un deal avec le gouvernement, mais il va continuer à faire comme il l'avait fait auparavant, à négocier avec le gouvernement la possibilité de parvenir à un règlement, j'allais dire, politique qui permet d'achever un certain nombre de réformes démocratiques et de surtout contribuer à l'arrêt de la guerre dans le Darfour. Ou surtout dans les Monts Nouba et le Blue Nile.
Quelle est la qualité de ces rapports aujourd'hui avec le président Omar el-Béchir?
Écoutez, même s'il avait été arrêté pendant le mois de juin, pendant environ 4 semaines, même depuis son exil de 2 ans au Caire, il avait toujours des rapports avec la présidence et le membre du gouvernement soudanais qui venait le voir, etc., chercher à les convaincre de rentrer au pays, etc.
Sur le plan politique, on sait que c'est un leader de l'opposition, mais de quel poids pèse-t-il réellement?
Sadek al-Mahdi est le chef de la plus grande formation politique. Ça, on l'aime ou on n'aime pas, il faut le dire, voilà. Donc, il a un point politique important sur la scène politique soudanaise.
Quel peut être son apport justement dans la résolution du conflit au Darfour?
Au Darfour, en réalité, la guerre n'a pas lieu, mais il y a les conséquences du conflit et il y a surtout les causes de ce conflit que les gens doivent négocier et régler. Le Darfour, pour Sadek al-Mahdi, représentait un terrain tout particulier dans ce sens que son électorat provenait essentiellement de cette région.
Notre confrère Mohamed Naki, directeur du journal Soudan Tribune.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
No, 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 who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Every place I go reminds me of you.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.